23h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure, c'est la vôtre. On va parler pendant une heure de la beauté, de ses avantages mais aussi de ses inconvénients. Avoir de jolis traits, un corps gracile, une silhouette élancée rend-il plus heureux? Question délicate, on n'a pas toujours conscience de son apparence physique et de l'image que l'on renvoie aux autres, donc difficile parfois d'en profiter. Et puis ça saurait si le bonheur ne dépendait que de son apparence. Mais incontestablement, avoir un physique avenant est un avantage dans le monde professionnel. Toutes les études le prouvent, les candidats beaux l'emportent toujours sur les autres, à l'embauche, au salaire, au déroulement de carrière. Et puis en amour, on vit tous avec cette idée que si l'on était vraiment beau, on pourrait séduire tous ceux qui nous plaisent. Mais c'est aussi beaucoup plus compliqué que ça. Plusieurs études montrent que la beauté perturbe, au contraire, la recherche de l'âme sœur. Soit parce que les gens normaux, les gens moyens, n'osent pas s'approcher des trop beaux qui paraissent inaccessibles. Soit celui qui est beau a du mal à se fixer sur un partenaire pour longtemps. Tout simplement parce qu'il pense toujours qu'il est peut-être possible d'avoir mieux. Est-ce que rend-il la vie plus facile? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous votre vie. Dites-nous si les portes s'ouvrent ou au contraire se ferment à cause de votre physique. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, et pour vous joindre, il faut nous appeler au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur la page Facebook de l'émission.
15h, 16h, Ève Roger sur Europe 1.
Nous sommes maintenant avec Lise. Bonjour Lise, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous Lise et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 26 ans et je vous appelle d'Irlande, de Cork exactement.
Alors j'ai voulu commencer cette émission avec vous Lise parce que vous n'hésitez pas à dire « je suis belle » et vous l'assumez, ce n'est pas courant. Alors à quelqu'un d'autre, dans une autre émission, je n'aurais jamais osé poser la question. Dites-nous en quoi Lise, vous êtes belle?
Alors, en quoi je suis belle? Je dirais que c'est surtout parce que je correspond en fait aux critères, on va dire, de notre culture française. C'est-à-dire que quand on voit les mannequins, voilà, j'ai le physique des mannequins, je me reconnais dans leur visage. Voilà, j'ai un petit nez, j'ai de grands yeux, j'ai une bouche pulpeuse, et j'ai un visage relativement symétrique. Voilà, j'ai des caractéristiques assez féminins. Et puis ensuite, voilà, au niveau du corps, je suis plutôt fine, voilà, élancée. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je me considère comme belle, parce que je me reconnais, on va dire, dans les stéréotypes de la beauté de notre société.
Comment vous vous en êtes rendu compte que vous étiez belle? C'est parce que quelqu'un vous l'a dit ou est-ce que vous l'avez découvert toute seule?
Non, c'est vraiment le regard social qui vous adoube, j'ai envie de dire, dans votre beauté. C'est votre entourage, c'est... À l'école, moi, on s'en rend compte. En tout cas, moi, personnellement, j'en suis vraiment rendu compte au collège. Le regard des garçons, voilà, va automatiquement sur vous. Enfin, c'est vraiment, ça vient, pour moi, c'est un regard extérieur.
C'est ça. Et quand vous étiez plus jeune, vous n'osiez pas assumer le fait d'être belle. Avec les garçons, vous jouiez à la fille inaccessible. C'était une façon de vous protéger, justement?
Exactement. Ouais, j'avais très peur. J'avais cette sensation d'être un peu un fantasme. Par exemple, au lycée, je voyais des garçons me regarder de loin, me suivre dans la bibliothèque, m'observer. Enfin, je me ressentais en fait l'attirance que
vous suscitiez.
Voilà, que je suscitais. Mais moi, en fait, j'avais peur de pas être à la hauteur. Je me disais très bien, je suis très belle, mais parce qu'en fait, j'ai une beauté intérieure qui va faire que tu vas vraiment rester avec moi. En fait, ça me paralysait, en fait. Donc, j'étais vraiment inaccessible. Ça me faisait plaisir de savoir que j'attirais, mais ça n'allait jamais plus loin.
Ça veut dire que jamais vous n'étiez dans une position de séduction?
Non. Au contraire, moi, je repoussais complètement la séduction. Ça me faisait peur.
Et est-ce que pour vous, c'est un privilège, justement, d'avoir ce regard des garçons sur vous? Ou est-ce que vous avez trouvé d'autres privilèges à votre beauté?
Alors oui, bien sûr, il y a un privilège de se dire qu'on est un peu l'élu quelque part, de savoir que quand on sort, on va se faire draguer. Il y a même ne serait-ce que sortir dans la rue, d'avoir des compliments. Il y a toujours un peu le côté on s'en jugeait, mais voilà, ça, il y a cette sensation quand même de se dire j'ai de la chance. On se rend compte quand même qu'il y a une chance. Je pense que ça m'a aussi apporté une certaine confiance, une estime de moi-même. Je pense que ça, c'est vraiment un privilège que confère la beauté. C'est
Et vous dites
c'est
aussi
cette
que
sensation de bien passer.
Vous aviez le sentiment aussi qu'à l'école, vous en profitiez. Ça veut dire que les profs étaient plus sympas avec vous?
Bah alors ça, c'est un peu difficile à vraiment à savoir, mais je pense que oui, je pense que la beauté a aussi cet effet. Voilà, on est belle, on passe bien en fait. Moi, en plus, j'étais intelligente et je pense que ça a joué. Je pense vraiment que ça a eu un rôle aussi dans ma scolarité. Et comme moi, j'étais pas une fille qui allait surjouer ma beauté, qui allait me maquiller beaucoup ou voilà m'habiller de manière sexy, me mettre vraiment en valeur, parce que en général, c'est ça que les gens n'acceptent pas, hein. On interdit un peu de jouir de sa beauté. Il faut être jolie, mais il faut quand même être très humble. Hein. Il faut une fausse modestie. Hein. Mm-hmm. C'est un peu obligatoire, on le ressent très vite. Et moi, je jouais ce jeu-là, j'étais une fausse modeste, et je pense que ça plaisait aux gens. J'étais mignonne, j'étais belle, voilà, très bien, mais j'en faisais pas trop.
Et en même temps, donc, vous étiez sympathique, c'est ça, vous jouiez un peu la bienveillance et la sympathie.
Exactement, exactement.
Alors, Lise, moi, c'est vrai qu'on se pose la question, on se dit tous, ça veut dire que vous pouviez, dans votre vie amoureuse, plus tard, avoir tous les hommes que vous voulez?
Bah alors, c'est toujours un peu... Bon, je ne sais pas si je pouvais avoir vraiment tous les hommes que je voulais, mais oui, il y a un peu cette sensation. Moi, évidemment, j'étais la dernière à aller draguer, mais j'avais quand même cette impression que si jamais je voulais avoir tel garçon, voilà, je pouvais. J'avais pas de limite, j'avais pas cette sensation d'avoir de barrières et de me dire, non, de toute façon, ça marchera pas. J'avais vraiment confiance et j'ai aujourd'hui vraiment confiance dans mon physique. Après, là où moi, du coup, j'avais pas confiance, c'était dans moi, mes compétences, voilà, enfin, qui j'étais intérieurement. C'est là où je me disais, est-ce que bon, là, ça, il va aimer.
Mais votre caractère, c'est ça, vous, voilà, quand vous dites ça, votre caractère, vos qualités exactement. Humaines, votre beauté intérieure, comme on dit. Hein.
C'est ça, et voilà, c'est ça. C'est là où j'avais plus de problèmes. Mais sinon.
Et Lise, vous avez un amoureux, là, je crois, depuis un an et demi. Est-ce que c'est compliqué ça. Pour lui?
Non, pas du tout. Mais après, aujourd'hui, enfin voilà, moi j'ai 26 ans, j'ai eu plusieurs relations depuis, et aujourd'hui je sais choisir, on va dire, la bonne personne, enfin voilà, quelqu'un qui n'aura pas de problème avec ma beauté, qui n'aura pas de problème, qui ne sera pas non plus dans une jalousie ou quelque chose comme ça. Ça ne me pose aucun problème dans ma vie de tous les jours avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui.
Alors je crois que vous dites j'assume ma beauté. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous dites bon, j'assume, et comment ça s'est traduit dans votre comportement?
En fait, c'est vraiment, je pense, au fur et à mesure, dans mes relations amoureuses que j'ai eues assez tard. Moi, j'ai eu ma première vraie relation, vraiment, c'était à 20 ans. Et en fait, je me rendais compte que je servais de trophée, en fait, dans mes relations. Regardez, j'ai une très belle copine, je suis un mec super. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, si jamais je suis dans une relation dans laquelle je me retrouve à être trophée, c'est qu'il y a un problème moi aussi avec ma beauté, c'est que je me considère aussi que comme ça. Et à ce moment-là, j'ai vraiment fait un travail sur comment je me sens moi, comment je vis ma beauté, et je me suis rendu compte que je l'assumais pas en fait. Je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était, je le voyais plus comme un peu un cadeau empoisonné. Et après aussi, à travers mes lectures, j'ai lu par exemple « Beauté fatale » de Mona Chollet, qui m'a aussi beaucoup interpellée. Enfin, voilà, d'un coup, il y a un regard sur la société et comment la société voit les femmes belles. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de m'extirper de ça et j'ai envie de montrer aux femmes qu'on peut assumer sa beauté, que c'est pas... Et ensuite, en fait, quand on l'assume, tout de suite, on ne se caractérise plus que comme ça, parce que c'est ça qui est dangereux. C'est quand on n'est pas sûr de soi et qu'on se voit que comme une femme belle, du coup, c'est là où on n'est pas sûr de soi et qu'on rencontre des hommes on attire des hommes qui sont pas, eux aussi ne sont pas sûrs d'eux-mêmes et vont vous utiliser votre beauté pour se sentir beau. Alors que quand on sait, moi je suis belle, c'est comme ça, et ça a des inconvénients et ça a des super avantages, en fait, ça permet vraiment d'être sain avec soi-même, et du coup, de choisir vraiment les bonnes relations. Voilà, c'est ça qui m'a... Et le déclencheur, ça a été vraiment mes relations amoureuses et comment moi, je me voyais dans ces relations amoureuses-là. Quel était mon rôle, en fait?
D'accord, Lise. Alors, je comprends, je conclue que vous êtes une belle heureuse. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience. Pour nos auditeurs, je précise que vous avez un blog qui s'appelle « Sois belle et dénonce ». Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Roxane, qui, vous l'entendrez, a plus de mal à assumer sa beauté. Restez avec nous.
Europe 1. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1 pour la joindre et raconter votre histoire. Composez le 39-21 ou laissez-nous un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et dites-nous si, pour vous, la beauté est un avantage ou un handicap.
La beauté est-elle promesse de bonheur? On en parle cet après-midi avec vous, Ève Roger, jusqu'à 16h sur Europe 1, partageant nos expériences de vie au 39-21.
Nous sommes maintenant en ligne avec Roxane. Bonjour Roxane.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Roxane?
Alors j'ai 28 ans et je vous appelle de Bretagne.
Alors Roxane, vous ne dites pas « je suis belle », plutôt « je suis normale ». Alors pourquoi, selon vous, les autres vous trouvent belle?
Ben, je pense quand même correspondre un petit peu au canon de beauté actuel. Je suis pas très grande, mais je suis plutôt mince. J'ai des seins, j'ai des fesses. Donc je visualise à peu près pourquoi on me trouve jolie. Oui.
Et pourquoi vous-même vous trouvez normale plutôt que belle?
Mais en fait, j'écoutais le témoignage de la personne juste avant qui disait qu'elle assumait qu'elle assumait totalement le fait d'être belle, et que le fait qu'on le lui dise le lui a aussi un peu prouvé. Et en fait, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir eu des expériences de vie qui m'ont permis d'arriver à ça.
À cette conclusion, par exemple.
À cette conclusion.
Bah, je sais pas. Moi, j'ai des souvenirs plus d'adolescence où c'était compliqué, mais parce que c'est compliqué pour tout le monde à l'adolescence, et où j'étais pas du tout la belle fille du collège ou la belle fille du lycée. Je pense que c'est venu plus tard. Et donc moi, c'est plus ces souvenirs-là que j'ai aujourd'hui, et c'est ces souvenirs aussi qui ont un peu façonné l'image que j'ai de moi, je pense.
Alors vous n'avez pas l'impression que cette beauté vous a ouvert les portes, contrairement un peu à Lise, en particulier dans l'univers du travail? C'est plutôt les autres qui vous disaient « c'est parce que tu es belle que tu obtiens ce que tu as ».
Oui, voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans deux entreprises différentes où à chaque fois, soit j'ai obtenu un poste après un stage, soit j'ai obtenu un CDI après un contrat plus précaire. Et dans les deux cas, je sais que voilà, il y a eu des hommes, c'était des hommes à chaque fois, qui ont dit « bon, bah, si elle a eu ça, c'est grâce à son physique ». Et ce, alors même que dans les deux cas, la personne qui m'a fait confiance et qui m'a donné ma chance, c'était une femme. Donc potentiellement quelqu'un qui n'était pas sensible au fait que je sois jolie ou pas.
Qui aurait pu même être un peu jalouse. Et ça vous blesse, ces réactions ?
Oui, c'est blessant parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être constamment diminuée en tant que personne. J'ai l'impression que les gens s'imaginent que je suis forcément stupide. Ou pas très compétente, ou pas très intéressante, ou en tout cas moins que les autres. Et c'est hyper blessant parce que quand en plus vous n'avez pas la certitude justement de pouvoir compter sur votre physique, moi j'aimerais autant qu'on me dise que je suis intelligente, que je travaille bien, que j'ai des capacités.
Plutôt qu'on vous dise toujours vous êtes belle.
Voilà, c'est ça.
Et en même temps, vous dites les autres associent votre beauté à des qualificatifs négatifs, hautaine, pas sympa. Vous avez même dit abruti à un moment. C'est vraiment ça?
Oui. J'ai l'impression que en fait, les gens sont toujours surpris quand je commence à parler d'un truc potentiellement un peu cultivé ou un peu intelligent et qui tombe de haut et qui sont là, tu connais ça? Ah mais en fait. T'es sympa, oui. ou t'es intelligente, et c'est hyper vexant. On a envie de dire, ben oui, t'imaginais quoi? Oui. T'es partie du principe que j'étais bête ou pas gentille. Moi, ça me vexe, énormément.
Mais ce qu'on comprend, c'est que d'une certaine façon, votre physique vous isole des autres, vous met un peu à l'écart.
Alors, non, peut-être pas tant que ça, parce que c'est vrai que quand on a un physique avenant, on a quand même des gens qui viennent vous parler, donc je suis pas complètement isolée, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça donne une fausse image de moi.
Dans tous les sens du terme, soit l'image d'une fille qui est hyper sûre d'elle, alors que c'est pas vrai, ou alors l'image d'une fille qui est débile, et j'ai la prétention de...
C'est pas vrai non plus.
Voilà, un peu plus intelligente que ça.
Dites-moi, vous êtes aussi célibataire, donc ça n'a pas été facile non plus dans les relations amoureuses. Vous dites, j'ai jamais eu de vie de couple vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport justement avec votre physique, parce que les hommes pourraient avoir des préjugés, vous trouveraient hautaine ou n'oseraient pas vous aborder?
Je sais pas, n'oseraient pas m'aborder peut-être. Peut-être parce que, ça c'est difficile pour moi de juger, mais je sais que j'ai des amis qui me le disent de temps en temps. C'est pas facile de venir te voir. Je sais que j'ai déjà un ami qui m'a dit t'es quand même difficile à draguer. Mais après, dans la durée de la relation, non, je pense pas que ce soit ça qui joue. Comme Lise tout à l'heure, je suis quand même capable de choisir d'être avec des gens qui sont pas bloqués par ça, ou qui sont pas hyper jaloux, ou qui se sentent pas diminués
Tout à
par
l'heure,
le fait
Lise nous
d'être avec une
disait,
fille comme ça.
oui, tout à l'heure, Lise nous disait, moi j'assume d'être belle. Vous, vous dites, j'ai intégré le fait d'être belle. Alors, il y a une différence? Est-ce que peut-être vous l'assumez pas tout à fait assez?
Ben, peut-être, peut-être. Et en même temps, voilà, l'intégration fait aussi qu'on accepte. C'est-à-dire que, en plus, Lise parlait tout à l'heure du fait qu'il faut être belle mais humble aussi. Et ça, on me l'a beaucoup fait sentir. Et ça, c'est quelque chose aussi où j'ai arrêté de faire trop d'efforts. J'ai arrêté d'être en jean basket. En fait, moi, j'aime bien les robes, j'aime bien les talons et j'aime bien les décolletés. Donc, j'ai décidé de les porter. Mais oui, peut-être que si. En fait, je pense surtout que ça changerait la perception que j'ai de moi, quoi. Si je l'acceptais enfin, je serais plus sûre de moi.
Vous
Je
savez
douterais moins.
et vous savez comment faire?
Ben, je pense que le temps aide beaucoup,
Ouais.
parce que déjà aujourd'hui, à 28 ans, ne serait-ce que par rapport à 20 ans, c'est le jour et la nuit.
Ouais.
On s'assume plus, on se rend plus compte et on se trouve objectivement plus belle aussi. Donc, je sais pas, hein, peut-être que quand j'aurai 40 ans, enfin.
Je crois qu'on a un témoignage qui dira ça tout à l'heure. Tous les espoirs sont permis, Roxane. Merci, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience.
Je vous en prie.
Nous allons retrouver dans quelques instants Jean-François Amadieu, sociologue, auteur de La Société du paraître aux éditions Odile Jacob et directeur de l'Observatoire des discriminations.
Europe 1. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 sur Twitter ou sur la page Facebook de l'émission, partageant nos expériences de vie faites comme Jocelyn, qui nous rappelle que la beauté, c'est subjectif, même s'il reconnaît qu'un joli visage attire le regard, mais que c'est la personnalité qui capture le cœur. Allez, on va continuer à parler de beauté, de facilité, de bonheur. Ce sera dans un instant, restez avec nous. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h sur Europe 1. La vie des gens beaux est-elle plus facile? C'est le thème d'aujourd'hui. On en parle avec vous au 39-21, mais aussi avec notre expert, Ève Roger.
Je me tourne vers vous, Jean-François Amadieu, sociologue et auteur de La Société du paraître aux éditions Odile Jacob. Bonjour et merci
Bonjour.
D'être avec nous cet après-midi sur Europe 1. Alors, on l'a entendu avec le premier témoignage de Lise en particulier, la beauté physique ouvre beaucoup de portes dans la vie et ça commence dès l'école. Ça veut dire que les enfants beaux sont les chouchous des maîtresses tout de suite.
Oui, d'ailleurs, dans le témoignage de Lise que vous avez diffusé, elle dit « je suis pas certain, je sais pas si les profs me voyaient différemment eh ». Ben, on peut confirmer que oui, en effet, les professeurs sont plus indulgents, notent mieux, ont une meilleure opinion, si vous voulez, des enfants et des adolescents ou des jeunes qui sont plutôt beaux, bien habillés, etc. Et c'est amusant d'ailleurs parce que c'est les premières études qu'on ait eues dans différents pays, il y a déjà quelques décennies, portaient sur ces sujets justement de l'école.
Alors ce qui est paradoxal, c'est que la beauté, en général, dans la société, est associée à l'intelligence, à la
Ça.
Gentillesse. Et en même temps, on entend Roxane qui dit « Moi, la beauté est associée à des défauts en réalité ».
Oui. Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, on va dire les choses comme ça, pour les hommes comme pour les femmes, parce que là, vous avez les témoignages de femmes. Bon, si on que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est absolument certain que un visage beau, le visage, très important. Donc, un visage beau va être automatiquement associé à une série de qualités, un florilège de qualités, dont l'intelligence, en effet, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Alors, ce qui va se passer pour les femmes, et seulement pour les femmes, évidemment, et c'est bien connu, c'est un peu particulier, c'était ce que Roxane d'ailleurs mentionnait, c'était Belle et Bête,
oui.
Le fameux préjugé de...
La ravissante idiote.
Oui, de l'idiote, de la blonde un peu stupide, etc.
Oui.
Alors, évidemment, dans le cas de Roxane, c'est d'autant plus accentué que, comme elle le dit elle-même, elle aime bien mettre des décolletés, des chaussures à talons hauts, etc. Donc, montrer des formes qu'elle apprécie, sa féminité, etc. Et du coup, elle n'hésite pas à en rajouter. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'elle s'expose dans nos sociétés, d'autant plus à ce préjugé bel et bête, qui effectivement est un des problèmes auxquels sont confrontées les femmes, au travail en particulier. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème qu'elles peuvent rencontrer. Mais néanmoins, vous voyez, ça va plutôt tenir pour le coup au look, hein, à la façon de se maquiller, à des éléments comme ça. Encore que même quand vous prenez le maquillage, on va prendre cet exemple qui concerne directement les femmes, il faut savoir que c'est incroyable. Il y a des études en Amérique du Nord, on en a fait en France aussi. Vous savez que le fait d'être maquillé pour une femme fait que un recruteur va vous trouver plus compétente, plus intelligente. Donc on va vous trouver on va vous trouver mieux professionnellement, voyez, la bonne candidate est plus intelligente parce que vous avez mis un maquillage. Alors que si vous n'êtes pas maquillé, que vous êtes au naturel, eh bien au fond, vous allez perdre des chances pour sortir le samedi soir et vous faire draguer, et vous allez perdre des chances pour avoir un emploi, ce qui est quand même beaucoup plus ennuyeux. C'est pour ça que vous voyez, quand on dit le préjugé bel et bête, on sait par exemple, en prenant le cas du maquillage, que ça n'est pas vrai.
Que c'est faux.
Non, ça reste toujours payant, très clairement quand même,
On l'a tous intégré d'ailleurs, on l'a tous intégré, puisqu'on se maquille, on se fait beau pour passer les entretiens d'embauche.
Oui, mais bien sûr. Toute femme qui va à un entretien d'embauche, en général, bien sûr, a pris soin de ses cheveux, s'est maquillée, a regardé, et tout le monde se déguise, les hommes mettent une cravate, etc.
Oui, c'est ça,
donc c'est pas une surprise, c'est simplement que donc ce préjugé bel et bête, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas. C'est vrai que les femmes y sont confrontées. Alors d'ailleurs, ce qui était raconté par Roxane est un problème type des femmes au travail, qui malheureusement vont se retrouver, on le sait, dans des contextes où souvent le supérieur hiérarchique, ce n'était pas le cas de Roxane, mais souvent c'est un homme.
Oui.
Voilà. Parce qu'ils sont plus souvent dirigeants, managers, etc. En haut de la pyramide. Donc, mécaniquement, c'est ce qui va se passer. Et évidemment, du coup, on l'oublie. Je le raconte dans mon livre, mais on oublie souvent ces données. Vous savez que dans le travail, il y a du harcèlement, etc. Mais il y a aussi beaucoup de relations amoureuses. Un mariage sur 10 aujourd'hui, au travail.
Ce que vous dites, c'est que quand une femme se maquille dans un entretien d'embauche, se fait belle, parfois le recruteur la choisit en espérant continuer une relation. Hein.
On a d'ailleurs des sondages là-dessus qui ont été faits récemment en France. Et les recruteurs avouent que, évidemment, quand ils ont dans ce contact très, très proche, finalement, de l'entretien, ils ont envie de poursuivre la relation. Et à l'instant où on se parle, vous avez un tiers des gens qui sont au travail qui ont, en ce moment, une relation.
Enfin, je regarde en régie, là.
S'ils sont en vacances.
Alors, un tiers, ils sont trois, donc il y en a un de vous trois.
Normalement, c'est un tiers qui a eu une relation affective ou amoureuse, comme on dit, une romance au travail. Donc, c'est un tiers. Et à l'instant où on se parle, c'est 1 sur 10. Donc, il faudrait qu'il y ait 10 personnes ici. Il y en a 1 sur 10. Et sinon, vous regardez. Mais il faut faire le test. Vous regardez autour de vous. Vous prenez les amis, les gens que vous connaissez et vous-même. Et vous vous dites, est-ce qu'il y a bien un tiers des gens que je connais qui ont eu une relation amoureuse une fois au travail? Et là, vous réalisez que oui, c'est bien ce qui va se passer quand vous y réfléchissez 2 secondes. Et donc, c'est très répandu. Alors, il y a une face sombre, c'est bien sûr le harcèlement, par exemple. Mais
il y a la face rose, parce que
c'est les femmes qui sont confrontées à ça. Les hommes, très très peu.
Dites-moi, Jean-François Madieu, vous dites que l'apparence physique est un critère de discrimination massif aujourd'hui dans notre société, au moment du recrutement.
Bien sûr.
Mais on n'en parle jamais. Pourquoi ?
Parce qu'on a mis une sorte de couvercle sur cette réalité que tout le monde connaît en pratique. Mais il y a un sondage du Défenseur des droits qui, enfin, a fini par le faire, après des années, en 2015, et où là, chez les demandeurs d'emploi, donc en fait, c'est le dernier chiffre qu'on ait, pour les demandeurs d'emploi, c'est le deuxième motif de discrimination, l'apparence physique, après l'âge. Et vous savez que l'âge, c'est les seniors.
Oui.
Parce que vous avez quelques années de trop et vous ne pourrez jamais être vendeur.
Mais alors pourquoi on n'en parle pas de cette discrimination physique?
On n'en parle pas parce que, c'est un sujet qui n'a jamais été porté, si vous voulez, depuis des décennies, où ça n'a pas été porté par des associations, il n'y a pas de combat. Si vous voulez, regardez ce que c'est que la lutte contre le racisme, le féminisme, etc. Bien sûr,
il n'y a peut-être pas d'association.
Il n'y a pas d'association. Il y a des associations quelques associations de personnes obèses. Oui. Il y en a quelques-unes. Alors un petit peu sur les personnes de grande petite taille, très peu.
Mais
des moi je ne connais même pas d'associations qui, par exemple, s'intéresseraient au sort des baux ou des laits en général, oui. Ou sur... Non, tout ça n'existe pas.
On en parle
pas.
Très peu. Dites-moi, Jean-François Madieu, vous avez une proposition justement pour changer les entretiens d'embauche. C'est comme faire à The Voice. C'est-à-dire, l'entretien d'embauche, vous le faites avec le recruteur qui tourne le dos au candidat dans son fauteuil.
Oui, alors le problème, c'est que d'ailleurs, il y a eu pour l'anecdote, ça a été tenté par, je crois, de Pôle emploi dans quelque part, et ça a suscité beaucoup d'émotions, ça a été mal perçu. En fait,
l'idée est séduisante, c'est-à-dire que le recruteur ne voit pas le candidat.
Bien sûr, mais d'ailleurs, l'idée, elle est connue, par exemple, depuis longtemps dans les orchestres symphoniques. Qui pratiquent de cette manière depuis les années 70 dans le monde entier. Et les études ont prouvé que ça avait permis à beaucoup plus de femmes, d'ailleurs, d'être recrutées dans les orchestres symphoniques, parce que, en effet,
c'est des auditions
va jouer
à l'aveugle.
Ah oui, tout à fait, comme dans The Voice. Et ça marche très, très bien. Et alors, évidemment, les gens se disent oui, mais c'est pas, enfin, comment ça, je peux pas voir les gens, etc. En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir son jugement faussé par ce qui va avoir une influence, bien sûr, et qui va
qui
être
est parfois inconsciente, oui.
Qui est complètement inconscient. Mmh. On ne peut pas y résister, parce que même si vous l'expliquez à quelqu'un, vous avez beau le savoir, c'est quand même compliqué.
C'est instinctif.
C'est instinctif, mmh. Donc ça se fait en quelques centièmes de seconde. Et malheureusement, dès que la personne franchit le pas de la porte et qu'elle va être en face de vous. Donc ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que normalement, ce serait mieux. Et d'ailleurs, solution qu'il faut absolument faire ça, c'est que dans les relations amoureuses, les gens font ce qu'ils veulent. Pour Lise, Roxane et leurs amoureux, chacun fait ce qu'il veut. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En revanche, lorsqu'il s'agit en particulier de l'école, mais du travail par exemple, là il faut faire quelque chose, et en particulier supprimer les photos sur les CV. Oui. C'est invraisemblable. Vous savez qu'aux États-Unis, depuis très longtemps, il n'y a jamais de photos. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui mettrait une photo sur un CV, mais d'où débarque-t-il? Oui. Et un employeur ne doit jamais le faire. Il ne devait pas le faire. À l'époque, ce n'était pas en raison d'une discrimination sur quelqu'un qui aurait un visage laid ou qui aurait été en surpoids, que sais-je. Non, c'était sur la couleur de peau.
Ah oui.
Parce que, évidemment, l'employeur aurait vu qu'il avait affaire à une personne de couleur de peau noire. Voilà.
Donc, mais normalement, la photo sur la CV.
Franchement, la photo. Alors, ça ne peut pas venir des candidats, ce n'est pas de leur faute. Ils sont obligés, quand ils sont cadres, ils mettent des photos.
Oui, c'est ça.
Mais ce serait normalement les employeurs, parce qu'il n'y a pas de loi actuellement, puisqu'elle a été abrogée, qui empêche ça. Mais il faudrait que les grands recruteurs disent non, nous, on ne joue
veut pas
à ça,
photo.
On ne veut pas les photos parce que c'est pas sérieux.
Restez avec nous, Jean-François Madieu. Merci, auteur de La Société du Paraître aux éditions Odile Jacob. Dans quelques instants, nous allons accueillir Léo. Léo est un jeune mannequin qui a fait de son physique avantageux son métier.
Europe 1. Et vous pouvez réagir comme Isabella qui nous dit « La beauté finit toujours par se faner, autant miser sur ses compétences et sa personnalité ». Et vous aussi, vous pouvez nous laisser un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1, sur la page Facebook de l'émission aussi. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h hein, sur Europe 1. Dites-nous, tiens, par exemple, si vous pensez que la beauté crée des inégalités entre les individus. À tout de suite. Et nous sommes avec Ève Roger jusqu'à 16h, la très belle Ève Roger aussi, c'est sur Europe. On parle aujourd'hui des avantages et des inconvénients de la beauté physique dans notre société. Dans la vie professionnelle ou dans les relations amoureuses, être beau rend-il la vie plus facile? On attend vos appels au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, partageons nos expériences de vie.
Et nous sommes en ligne avec Léo, bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous Léo et d'où nous appelez-vous?
J'ai 24 ans, je vous appelle de Paris, République.
Alors vous Léo, vous êtes mannequin. Alors juste pour commencer rapidement, racontez-nous en quoi consiste concrètement votre travail, en quoi ressemble une journée type de votre vie.
Une journée type, il n'y en a pas vraiment en fait. Comme je ne suis pas signé en agence, je suis indépendant et je travaille surtout dans les Fashion Week. Et sinon,
des défilés.
Je suis modèle photo.
Voilà, photos
des défilés
et défilés.
Ou des présentations.
Alors,
exactement.
Quand est-ce que vous avez compris Léo que vous étiez beau?
Je pense que j'ai compris ça assez jeune, avec mes parents et aussi à l'école, dans des choses comme ça. J'ai souvent été un peu le chouchou ou des choses comme ça.
Et dans votre physique, qu'est-ce qui plaît selon vous?
Je pense que c'est pas vraiment une question de beauté, c'est plus un charme. J'ai pas mal de petites choses assez uniques, je pense.
Il paraît que vous avez les dents du bonheur et que ça plaît beaucoup.
Exactement, les dents du bonheur. C'est mon père qui a décidé de me laisser ces dents du bonheur. Il m'a montré des gens qui avaient les dents du bonheur et m'a dit, regarde, ces gens-là, ils ont du bonheur. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu les gardes, mais j'ai suivi sa philosophie.
Ouais.
Et j'ai fait un peu pareil après, avec j'ai les oreilles aussi décollées. Je suis né un peu comme ça. J'ai une oreille un peu plus que l'autre, il me manque un pli. Et j'ai refusé, je crois, à l'âge de 7 ans, finalement, de me faire opérer. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi.
Et ça fait partie de votre beauté, finalement?
Je pense, ouais. Plusieurs fois, on m'a dit que c'était quelque chose qui était assez recherché, des petites oreilles assez particulières. Voilà.
Dites-moi, Léo, je vous dis, j'ai assez vite compris qu'il fallait faire attention, parce que justement, vous étiez beau. Vous avez été, par exemple, et ça m'a frappé, souvent racketté quand vous étiez jeune.
J'ai été plusieurs fois racketté, ouais, c'est vrai. C'était une période quand j'étais jeune aussi, peut-être comment je m'habillais et comment j'étais perçu en fait, puisque après coup j'ai discuté avec des gens, j'ai grandi dans un quartier, j'y vis toujours à République et à la liaison avec le Marais et des choses comme ça, et donc on peut croire que je viens aussi de là-bas et j'ai discuté avec des gars après coup qui m'avaient racketté et qui m'ont dit qu'en fait j'avais vraiment une gueule un peu d'ange et comme si j'avais de l'argent quoi.
Comme
et
si vous étiez un enfant des quartiers chics, quoi.
Voilà. Mais j'ai grandi entre les deux, en fait. Mon père habite dans le 5e arrondissement, et j'ai grandi un peu avec lui. Il est ophtalmologiste, alors que ma mère est artisan brodeur, donc j'ai grandi vraiment entre les deux.
D'accord. Et donc, c'était encore le physique. Maintenant, je voudrais parler avec vous, Léo, des privilèges qu'apporte la beauté. Les filles, visiblement, n'ont pas de problème pour vous aborder dans la rue, dans les bars. Alors, est-ce que ça vous plaît?
Ça dépend des situations et je pense que c'est aussi une question de mon mood, entre guillemets. Il y a des moments où j'accepte que des choses se passent et d'autres moments où je vis juste pour moi. Un peu, je suis assez introverti et ouais. J'ai refusé pendant longtemps d'accepter qu'on me regarde, voilà, de faire des photos, et tout ça. Ça fait qu'un an que j'ai décidé de m'exposer un peu plus et voilà.
Et vous diriez quoi justement sur les privilèges qu'apporte la beauté? Est-ce que c'est pas mal quand même une des filles qui vous aborde plutôt que d'avoir à faire le geste soi-même?
C'est à chaque fois des rencontres assez intéressantes, mais c'est aussi, comme c'est lié à mon physique, notamment maintenant j'ai commencé aussi sur Instagram, lié à mon métier de mannequin, et il y a des gens qui m'abordent uniquement, je pense, grâce à mes photos et à mon paraître, et en plus ce que je diffuse, c'est assez une image... qui me représente pas vraiment et j'ai eu des relations à distance un peu entre guillemets, des FaceTime, des choses comme ça avec des gens et au final je suis pas allé au bout parce que j'ai compris que c'était pas moi en fait.
Que c'était que l'apparence, mais alors finalement ça veut dire que vous dites on n'a pas accès à ce que je suis intérieurement et c'est ça qui vous dérange.
C'est comme l'a dit juste avant
Roxane.
Le monsieur était... Voilà, exactement.
Ah non, le sociologue, notre sociologue.
Le sociologue, exactement.
Jean-François Amadieu.
Ça prend quelques secondes de, entre guillemets, juger quelqu'un, même si on ne le veut pas. C'est même pas une question de jugement, c'est une appréciation, un sentiment. Et je pense que je peux diffuser très rapidement quelque chose qui est soit gai ou joyeux pour quelqu'un. Et ça dépend encore de mon humeur. Et de même, comment je suis habillé, je pense que c'était tout un reflet. Et c'est ça que j'ai aimé dans le mannequinat, parce qu'il y a des photographes qui m'ont pris en photo sans vraiment de vêtements, pas dans la nudité vraiment, mais pour justement capturer moi-même. Et il y a des gens qui ont su vraiment...
Ça reste votre physique, malgré tout. Mais est-ce qu'il y a... Ça veut dire qu'à certains moments de votre vie, vous avez le sentiment d'être vous-même et pas seulement cette enveloppe qui est belle?
Tous les jours.
Et à quel instant?
Tous les jours.
À
c'est
quel
quelque
moment
chose qui me... Oui. C'est quelque chose que je prends pas trop en compte, en fait. Je le sais, il y a des amis, des fois, qui me disent « T'as c'est ouf, tout le monde te regarde de marcher avec toi, les filles, et tout. » Moi, je le vois pas vraiment, en fait. Je suis quelqu'un d'assez timide, aussi.
Alors, en même temps, vous en profitez un peu, puisque vous dites « Ça vous sert partout, un peu, dans votre vie quotidienne, pour passer plus vite à la caisse d'un supermarché, par exemple.
» ça m'arrive, ouais. Quand je l'utilise à bon escient, jamais à mauvais escient.
Vous n'abusez pas vraiment... Qu'est-ce que vous faites exactement pour ça?
En fait, j'y pense, c'est pas ma beauté ou quoi que ce soit, mais je pense que ça joue avec mon charme, mes dents du bonheur. J'arrive en souriant, excusez-moi, j'ai qu'un seul article, hop. J'essaie souvent d'aller vite, justement, comme je vous disais, pas trop de routine. Et des fois, on m'appelle du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre pour aller faire des photos ou des...
Donc il faut aller vite. Dites-moi Léo, je voudrais terminer avec ce que votre oncle vous a dit. Il vous a dit « Fais attention avec ta beauté, tu vas te perdre ». Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond, se perdre, risquer de se perdre quand on est beau?
c'est mon parrain qui m'a dit ça. Il connaît beaucoup le, c'est un artiste, il connaît beaucoup le milieu de la mode. Et il m'a dit quand je suis rentré là-dedans que j'allais sûrement me perdre et qu'il fallait que je garde ma vibration. Parce que je fais aussi des créations artistiques. Et depuis ce jour-là, on ne se voit plus trop. Ça, c'est quelque chose de spécial.
Vous ne voyez plus, mais est-ce que vous êtes toujours attaché à cette phrase de ne pas se perdre ?
Évidemment. Et j'ai une œuvre de lui en face de moi et je ne me perdrai pas, j'en suis sûr.
Merci beaucoup Léo pour votre témoignage. Et je vous pose la question à vous, Jean-François Amadieu, sociologue, auteur de La Société du Paraître aux éditions d'Yves Jacob. On comprend bien que l'apparence physique est primordiale dans les métiers de la représentation, hein, l'hôtellerie-restauration, le mannequinat, on vient d'en parler. Mais ça existe dans tous les secteurs au fond, cette apparence, cette prédominance de l'apparence.
Oui, ce qui est surprenant finalement, c'est que dans des cas où il n'y a pas de contact avec les clients, il y a besoin de séduire personne, on vend pas des images, ça va compter. Alors ça, c'est assez. On va prendre un exemple. On a fait des tests par envoi de CV avec des photos sur des postes qu'on appelle en back office, par exemple des centres d'appel. Mmh. Ou alors on le fait parfois pour des postes de comptable, enfin bref,
des postes où on n'a pas de contact avec personne.
On peut choisir des postes où il n'y a pas de contact avec la clientèle, et néanmoins ça va jouer. Donc et puis alors vous avez aussi le cas des cadres, qui est quand même un cas très intéressant, c'est que en principe, donc plus vous avez quelqu'un qui a des diplômes, plus on s'imagine. C'est que dans une tour de la Défense, eh bien, ces cadres vont être jugés sur autre chose que pour les femmes. Le nombre de centimètres de talons, leur apparence, etc. Et en fait, ça continue à. L'apparence continue à être importante. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est sur les CV des cadres qu'il y a quasiment tout le temps une photo. Mmh. Donc, si vous voulez, ça reste extrêmement important. Un peu comme si ça restait un concours de beauté que le recrutement.
La vie professionnelle est un concours de beauté permanent. Oui. Merci infiniment Jean-François Amadieu, sociologue et auteur de La Société du Paraître aux éditions Odile Jacob. Dans quelques instants, nous serons avec Geneviève. Alors Geneviève, elle a 76 ans aujourd'hui et elle nous racontera la vie extraordinaire qu'elle a menée grâce à sa beauté.
Europe 1.
La vie des gens beaux, tiens, est-elle plus facile ? C'est le thème d'aujourd'hui, Eve. Et merci d'ailleurs à Frédéric qui nous a laissé un message au 3921 pour nous dire « Rien de plus culturel que la beauté physique. La peinture fournit des preuves évidentes de la relativité des canons de beauté selon les époques. » Mais si, comme Frédéric, vous souhaitez nous laisser un petit message, Twitter, hashtag Europe 1 ou encore la page Facebook de l'émission, partageons nos expériences de vie. 15h43, on parle de beauté. Estimez-vous qu'être beau facilite nos interactions sociales, amoureuses et professionnelles? 39-21, vous intervenez jusqu'à 16h sur Europe 1. Nous sommes avec Eve Roger.
Et nous accueillons maintenant Geneviève. Bonjour Geneviève, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour Eve.
Alors, j'allais vous dire quel âge avez-vous, mais je l'ai dit plusieurs fois, vous avez 76 ans, mais d'où nous appelez-vous?
Là, je suis en Belgique, là, actuellement.
Alors Geneviève, on peut dire que votre beauté vous a permis de mener une vie extraordinaire, hein, actrice, mannequin. Et ça a commencé à 16 ans quand un magazine vous a photographié à votre insu sur une plage de Saint-Tropez, tout simplement, parce que vous étiez belle.
Oui, par le plus grand des hasards. J'avais signé 6 mois avant un contrat pour faire un film, parce que j'avais rencontré un producteur à Cannes, je pense, sans doute grâce à ma beauté aussi. Bien que j'en étais totalement inconsciente, je me rendais pas du tout compte, hein, moi j'étais belle. Je rasais presque les murs. Ma maman me prenait à Cannes pour aller voir les vedettes et moi je rasais les murs pour pas qu'on me remarque. Et j'avais signé un contrat pour un film et le producteur m'avait dit surtout, donc on était au mois de mai, le film va se tourner en novembre et d'ici là, je ne veux pas que personne ne sache, je ne veux pas qu'on parle de vous, ni qu'on vous voit. Vous allez être une surprise.
D'accord.
Et je vais me promener à Saint-Tropez comme beaucoup de jeunes de mon âge. Et je rencontre des amis, je rencontre la bande d'Avadim, Vadim, Christian Marquand, etc. Je me lie d'amitié avec eux, je suis sur la plage avec eux. Il y a un type qui fait des photos, je ne savais pas du tout qui c'était. Moi, je ne m'occupais pas de lui. Et puis, la semaine suivante, surprise, Jour de France, pleine page.
Une photo de
l'inconnu de la Côte. Une photo, pleine page, moi toute seule, pas avec Vadim, pas avec Sanne Stroberg, rien. L'inconnu de la beauté de l'été, l'inconnu de la plage, enfin bon.
Vous avez été démasquée, mais Geneviève, ce que je trouve intéressant, c'est que même à l'époque, vous étiez bourrée de complexes, alors c'est complètement incompréhensible. C'était quoi vos complexes à l'époque ?
Ben, c'est-à-dire que je sortais d'un strabisme, je sortais de 10 ans de strabisme. J'avais eu le strabisme à 3 ans à la suite de la rougeole. Donc je sortais de 10 ans de strabisme. J'avais été opérée des deux yeux et j'étais à peine pour moi en train de prendre. J'avais entendu toute mon enfance comme elle est jolie, quel dommage ses yeux.
Oui.
Et tout d'un coup,
ça crée des complexes.
Et tout d'un coup, j'entends « Oh, les beaux yeux
!» Ah oui, ça
va
changer.
Pour moi, j'étais encore sur mes 10 ans de « Ah, on ne joue pas avec toi parce que tu es une loucheuse, tu n'es pas belle, tu louches, etc. »
Mais à partir de quel moment vous avez pu en profiter, justement, de cette beauté de ces yeux qui étaient remis à l'endroit?
À partir du moment où j'ai commencé, grâce à ces photos, qui sont parues parce qu'il y en a eu une deuxième incompréhensible dans un journal de cinéma, page extérieure en couleur, pareil, l'inconnu de l'été, la beauté. Une autre photo, complètement inconnue.
Parce que vous n'avez pas pu assumer et profiter de cette beauté avant 40 ans. Et là, vous aviez 16 ans, donc pendant 24 ou 25 ans, ça a été compliqué.
J'en ai profité matériellement.
Ah!
Parce
l'argent.
Que j'ai pu commencer à gagner. J'ai fait ce film et puis je me suis rendu compte très vite avec 2-3 films que le cinéma c'était pas pour moi. Il faut se passer ma vie à attendre. J'aimais pas. Puis donc j'ai commencé à faire des photos. Des photos de mannequins, mannequins photos, maquillage, etc.
Et on donc vous avez gagné souvent, beaucoup d'argent. Mais parce que je crois que votre mère, elle espérait surtout que vous épousiez un milliardaire et ça ne s'est pas fait.
Ah bah oui, ma maman, elle venait d'un milieu ambassade, Istanbul, ex-Constantinople. Pour elle, belle comme j'étais, j'allais épouser. Il était évident que j'allais épouser un milliardaire.
Eh ben non.
Bon, et moi, rien, j'en avais, mais rien à carrer.
Geneviève,
ni de l'argent, ni des milliardaires.
Dites-moi, Geneviève, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que vous dites que cette beauté qui vous a tant donné dans votre vie, aujourd'hui, elle vous fait souffrir parce qu'elle s'est fanée avec l'âge et que tout le monde vous parle de votre beauté à l'imparfait.
Oui, bon, souffrir, c'est peut-être exagéré, mais disons que ça m'énerve souvent de voir que les gens qui ne me connaissent pas me disent oh comme vous êtes une belle femme, des voisins ou des, mais dès qu'on connaît mon passé, dès qu'on regarde des photos d'anciennes photos de moi, on me dit oh qu'est-ce que tu étais jolie, qu'est-ce que tu étais belle.
Mmh.
Et ça, j'avoue que ça m'énerve parce que pour moi chaque âge a sa beauté.
Pourtant, j'ai ouï dire que vous séduisez encore les hommes aujourd'hui.
Hein. Oui, bon, il paraît que je suis encore très belle. Je fais facilement 15 ans de moins que mon âge.
Oui. Et puis, vous avez l'expérience.
On ne voulait pas me donner la carte senior pour le bus en me disant que c'était qu'à partir de 65 ans.
Ah ben c'est bien. Geneviève, profitez-en encore beaucoup. Merci mille fois pour votre témoignage. Et pour conclure cette émission, nous allons accueillir Jade, une jeune collégienne de 13 ans qui découvre seulement la joie, mais aussi les angoisses d'être belle.
Europe 1.
Et ben voilà, on passe d'une génération à une autre. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h sur Europe 1. Puis on aime lire vos messages sur Twitter, par exemple, avec le hashtag Europe 1. L'éternel débat sur la beauté physique et son impact sur nos vies. La vie des gens beaux est-elle plus facile? C'est le thème d'aujourd'hui. Vous écoutez Ève Roger pour quelques minutes encore sur Europe 1. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous maintenant Jade. Bonjour Jade, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Jade, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 13 ans et je vous appelle de Paris.
Alors déjà, merci beaucoup Jade d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je sais que ce n'est pas forcément facile pour vous parce que vous êtes très jeune. Alors Jade, comment avez-vous compris que vous étiez belle? Qui vous l'a dit?
On me l'a dit des gens dans la rue, mes parents, mes amis, mon entourage, ma famille. Et je l'ai compris vu qu'on me l'a dit, j'y ai pensé, voilà.
Et est-ce que ça vous gêne qu'on vous dise que vous êtes belle?
Ça dépend. Des gens qui m'arrêtent et qui me disent ça gentiment, non, ça me dérange pas. Mais quand on me le dit de façon un peu impolie et comme ça dans la rue, ça me dérange un peu, oui.
Et pour vous, cette beauté, c'est plus aujourd'hui, vous avez 13 ans, hein, des inconvénients que des avantages, en tout cas pour l'instant. Et justement, le premier inconvénient pour vous, c'est les regards insistants dans la rue, c'est ça?
C'est un peu gênant. Enfin, pour mon âge, à 13 ans, ça fait un peu peur des fois de se promener dans la rue et d'avoir des regards insistants sur nous. Après, oui, pour l'instant, c'est plus des inconvénients que des avantages parce que je vois pas dans, pour l'instant, ça me servirait à quoi de positif vraiment.
D'être belle, vous en profitez pas vous-même, vous vous dites pas devant le miroir, ça vous, l'image que vous voyez, ça vous satisfait pas, ça vous apporte pas quelque chose.
Ça me donne peut-être de la confiance en moi, oui, mais c'est tout.
Et ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est que non seulement il y a les hommes qui vous regardent, mais les femmes aussi.
Oui, c'est beaucoup de mamans aussi.
Des mamans, mais comment parce qu'elles ont, elles ont des enfants avec elles, comment vous savez que ce sont des mamans?
Des mamans, enfin des femmes de 40 ans.
Ah oui.
Des fois, des femmes. Oui, des femmes avec des enfants, ouais. des nounous ou des vieilles femmes, oui.
Et ça vous dérange pas, ça, quand c'est des mamans, comme vous dites?
Quand c'est des mamans, ça va. Enfin, je me dis qu'elles ont pas, elles sont pas dangereuses, qu'elles n'ont pas des idées derrière la tête, ou j'en sais rien.
Qu'elles peuvent pas vous faire du mal. Et est-ce que vous faites justement attention à la façon dont vous vous habillez quand vous sortez dans la rue, Jade, pour pas justement avoir trop de regards insistants?
Oui, j'essaye de pas non plus. En fait, déjà que pas que j'attire l'œil, mais on me regarde un peu. Alors si je m'habille de façon voyante, ça fera que attirer encore plus l'œil sur moi. Donc, j'essaye d'éviter, oui.
Donc, vous faites attention. Et vous dites aussi que les autres, les gens qui ne vous connaissent pas, vous croient hautaine aussi. C'est ce qui revient.
Oui, ça revient beaucoup au collège. Plein de amis me disent que les gens me trouvent hautaine et que je prends les gens de haut et tout.
Et qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit ça?
Moi, ça m'attend beaucoup qu'on me dise que je suis hautaine et que j'ai l'air méchante, alors que c'est des gens que je leur ai jamais parlé et ils devraient venir me parler au lieu de dire ça sur moi sans me connaître.
Mmh. Ce que disait Lise au début, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Jade, elle disait « J'accentue mon côté sympathique et bienveillant justement pour que les gens ne me prennent pas pour une femme, une fille hautaine. » Est-ce que vous avez essayé ça, cette méthode?
Oui, j'essaie de sourire, de dire bonjour au collège et tout, pour qu'on arrête de dire que je sois hautaine, parce que ça... C'est pesant quand même.
Je comprends. Et c'est pas toujours facile non plus avec vos copines. Vous dites, il y en a, mes copines à cet âge-là, elles se trouvent moches. Et quand elles me demandent, est-ce que toi, Jade, tu te trouves belle, et que vous répondez oui, et qu'est-ce qu'elles vous disent à ce moment-là?
Elles me disent que je suis narcissique, que je m'aime trop et que c'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal de se trouver belle, mais elles me regardent un peu mal en mode t'es narcissique ou quelque chose comme ça. Enfin, que c'est pas normal de se trouver belle et que, enfin, voilà.
Et est-ce qu'à l'école, vous avez aussi le sentiment d'en profiter un peu, que les profs sont sympas avec vous? Mais est-ce que je crois que vous êtes aussi une très très bonne élève, donc ça aide?
Je suis une très bonne élève parce que je travaille pas grâce à ma beauté. Et... Non, les profs ne sont pas plus gentils avec moi parce que je suis belle. Mais justement, au premier trimestre, ma prof d'anglais a dit à une autre amie durant la remise de bulletin que je m'occupais plus de ma beauté que de mes devoirs.
Mais non.
Si.
Et alors que vous aviez de très bonnes notes.
Oui, j'avais des très bonnes notes et elle a juste dit ça, je sais pas pourquoi elle a dit.
Ah oui, c'est vexant. Vous dites il vaut mieux être neutre que belle. Donc est-ce que parfois vous essayez de vous rendre un peu moins belle justement pour atteindre cet objectif qui est neutre, c'est-à-dire ni belle ni moche, quoi.
Pas neutre, mais passer un peu plus inaperçu, être un peu moins belle, oui. Enfin, je me maquille pas, je mets pas des tenues extravagantes, donc oui, j'essaie de passer un peu plus inaperçu. Je me rends pas plus belle, je me rends pas moche, mais j'essaie de rester un peu au milieu.
C'est difficile quand même votre vie, déjà, de commencer la vie comme ça en essayant de s'amoindrir. Je voulais vous demander, est-ce que vos parents vous aident?
Ma mère, oui, quand je lui parle des hautaines et tout, elle me dit que c'est de la jalousie et que j'en rencontrerai beaucoup dans ma vie. Donc oui, elle m'aide beaucoup. Mon père aussi, ça va.
Bon, alors ça va, Jade. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience. Merci aussi à Lise, Roxane, Léo et Geneviève de nous avoir raconté cette vie qui fait tant fantasmer ceux qui n'ont pas un physique exceptionnel. Et à Jean-François Amadieu pour son éclairage. Grâce à vous, grâce à lui, on comprend qu'être beau ou belle est forcément un avantage dans la vie, à l'école, dans le monde professionnel et les relations sociales, car l'apparence physique est hyper valorisée dans notre société. Mais ce qu'on a entendu aussi grâce à vos témoignages, c'est que la beauté a ses revers. Elle attise la jalousie des femmes et les regards salaces des hommes. Elle provoque parfois un sentiment d'isolement et de mise à l'écart, car les beaux ont souvent une image de vaniteux, de hautain ou de superficiel. Et puis surtout, on a compris qu'avoir un physique de rêve ne protège pas des complexes physiques. Alors une solution, assumer sa beauté, la valoriser plutôt que de la cacher, en être fier, sans arrogance, plutôt que de la minimiser. Pour qu'à la fin, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le témoignage de Lise, notre première témoin, que les autres en profitent aussi. La beauté est un don, dit-elle. Cette onde de charme, utilisée avec bienveillance, transcende l'autre.
Europe 1.
Demain, nous parlerons d'un sujet tabou, les couples qui ne font plus l'amour. Alors, si vous êtes en couple et que vous n'avez pas fait l'amour depuis des mois ou même des années, si vous vous inquiétez de la fréquence de vos rapports sexuels, si au contraire, vous avez trouvé des astuces pour relancer une vie sexuelle à tonne, appelez-nous au 3921 pour témoigner, nous attendons vos appels. Merci à Benjamin Lévesque et Caroline Baudry, mes deux très beaux assistants pour la préparation de cette émission. Et que dire de Boris Paczynski à la réalisation? Merci Boris, merci à vous belle Marlène.
Ah, trop sympa, merci, elle va demain.
Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny. Laissez-vous emporter, c'est dès 16h sur Europe 1. À demain.